On se lance donc pour cette deuxième émission de l'ALMA, l'association des libraires montalbanais, avec aujourd'hui autour de la table Hugues Dedy du comptoir de Sildavi. Bonjour Hugues.
Bonjour.
Daniel Deloche de la librairie Deloche.
Bonjour.
Vous êtes venu accompagné de Philippe Bernadou. Bonjour Philippe Bernadou.
Bonjour.
Voilà Philippe Bernadou que je connais pour passer tard devant la librairie Deloche et qui est constamment, c'est une énigme pour moi, constamment dans la librairie, les lumières allumé au fond, toujours en train de ranger, de trier, de mettre en rayon les livres.
Disons qu'en venant à Montauban, en fait, j'ai épousé une librairie.
Maurice Beau est également présent. Bonjour Maurice.
Bonjour à tous. Toujours sur place.
Voilà. Voilà. Le même principe que pour la première émission. On ne va pas changer un fonctionnement qui gagne. Un auteur, des coups de cœur des libraires montalbanais, une lecture qui nous sera livrée aujourd'hui par Philippe Bernadou, et puis bien sûr l'actualité des libraires montalbanais. On commence donc par l'auteur. Philippe, c'est à vous que revient de démarrer cette émission.
Alors l'auteur du jour, ce sera un écrivain anglais qui s'appelle Sanson. Il n'a pas de prénom, on ne connaît que ses initiales, c'est C.J. Sanson, ça se fait assez couramment en Angleterre, on a P.D. James comme ça. Et donc c'est un auteur de romans policiers historiques, il en est à son troisième roman publié en français. Ce sont des romans qui se passent les deux premiers sous Cromwell. À la fin du second, Cromwell est décapité, donc le troisième se passe sous Henri VIII. L'auteur lui-même est une formation de notaire, ce qui est intéressant pour la suite. Et il a par contre tout abandonné pour se consacrer à l'écriture. Il est né en 1952, donc il a la cinquantaine. Ses romans, on y revient, ont pour personnage principal un enquêteur, donc, qui est de métier notaire, qui s'appelle Matthew Shardlake, et qui a ceci de particulier, c'est qu'il est bossu, il est contrefait, ce qui, dans la société de la Renaissance, est encore plus que maintenant certainement, est une tare. Mais par contre, il est superbement intelligent, et toutes les énigmes qu'il aura à résoudre, il s'en sortira haut la main. Le premier bouquin s'appelle « Dissolution ». Il se passe au moment où la royauté anglaise met la main sur les biens du clergé, de l'Église catholique, et donc où on dissout les biens du clergé. Lui va être chargé d'enquêter, Matthew Sheldrake donc, va être chargé d'enquêter sur le meurtre d'un homme du roi qui devait aller dans un monastère faire signer la décharge à l'abbé. Le second s'appelle « Les larmes du diable » et traite de la recherche du secret du feu grégeois, qui est quelque chose de très mystérieux qui permettait de détruire les bateaux à distance. Et en fait, c'est l'ancêtre du lance-flammes. Et le troisième s'appelle « Sang royal », c'est Henri VIII donc, qui va essayer de pacifier les contrées du nord de l'Angleterre à la frontière de l'Écosse, qui sont plus ou moins en rébellion contre le royaume. Et tout commence par le meurtre d'un maître verrier. Et donc notre notaire va être chargé d'éclaircir ceci. C'est des romans qui sont très intéressants parce qu'ils permettent de revisiter ou de visiter tout court l'histoire anglaise qu'on ne connaît pas vraiment. Donc il y a la dimension historique apparemment, pour ce que je peux en juger, est très rigoureuse. Et en même temps, les intrigues sont passionnantes. Son traducteur en français, c'est un monsieur qui s'appelle Georges-Michel Sarotte. C'est publié aux éditions Belfond, les trois titres. Les deux premiers existent en poche maintenant dans la collection Pocket.
Merci Philippe Bernadou. Hugues Dedy, votre coup de cœur ce mois-ci.
Beaucoup de coups de cœur ce mois-ci dans l'actualité de la bande dessinée et du manga. Mais c'est pourtant dans le manga que j'ai décelé une petite perle en Lady Snowblood, un gros pavé de près de 500 pages, du sang, du sexe et de la poésie. Tout un programme. Hein. C'est dans l'ancienne tradition littéraire, il faut lire pour ça les monogatari, dans cette cette ancienne tradition littéraire japonaise qui confère à ce peuple un art exceptionnel à mêler le gore le plus violent, la sexualité la plus débridée et un raffinement poétique des plus touchants. Les Disney Blood, c'est tout cela avec l'élégance du chef-d'œuvre. Alors en gros, que se passe-t-il ? Vers 1870, le Japon institue ce qui sera appelé l'impôt de la mort, c'est-à-dire la conscription de tous les jeunes hommes valides pour créer une armée puissante qui sera le symbole des nations fortes. C'est dans ce contexte que l'époux et le fils de Sanyo sont assassinés et elle-même, cette jeune femme, est jetée en prison. Par vengeance, en prison, elle décide de concevoir et de donner naissance à un enfant qui deviendra son bras vengeur. Et malheureusement, elle décède en couche en donnant naissance, non pas à un garçon, mais à une fille, Yuki. Cette jeune fille sera élevée par les plus grands maîtres du sabre et deviendra Lady Snowblood, une redoutable tueuse professionnelle dont le charme sera aussi dangereux que le sabre. Donc 500 pages de pur bonheur qui frise avec tout, enfin qui contient tous les ingrédients du manga. Parfait. Le scénariste crée un personnage de papier à la personnalité complexe sur lequel repose tout le manga. Il offre également un contexte très documenté, celui de l'ère Meiji, une période tourmentée où toute la société va muter. Et puis aussi, chose assez courante dans la littérature japonaise, il déstructure complètement la chronologie. Quant au graphisme de Kamimura, qui ont 35 ans, oui c'est un manga de 35 ans, les graphismes malgré tout gardent toute leur fraîcheur, tout ça pour des scènes d'action extrêmement vives. Quand vous aurez terminé la lecture de ce manga, vous penserez sans aucun doute au film de Quentin Tarantino, Kill Bill, et c'est normal puisqu'il s'en est inspiré. Et sans doute, comme moi, préférerez-vous la fraîcheur et la poésie de l'original à la frime du film ? Voilà, c'est Lady Snowblood aux éditions Kana.
Merci Hugues Dedy. Maurice Beau, quel est votre coup de cœur ce mois-ci ?
Ah, moi, c'est un coup de cœur, je dirais, intéressé. Je voudrais donner un écho à une entreprise que nous avons fait, voici maintenant 3 ans, nous sommes lancés dans l'écriture et puis faire vivre des contes d'Écosse du Quercy. Et nous venons d'un travail de 3 ans, une trilogie d'écriture.
Alors vous, c'est l'association APIC pour la promotion...
Voilà, association APIC pour la promotion de l'identité d'Écosse du Quercy. J'ai le plaisir de participer, entre autres, à cette petite entreprise, d'écriture. Donc 3 livres de contes, un consacré aux arbres des Cosses du Quercy, un autre au lieu-dit des Cosses du Quercy et un autre au puits des Cosses du Quercy. Donc la thématique de l'eau, de l'arbre, des choses tout à fait essentielles et de l'identité. Et ce Noël, nous avons décidé de relier cette trilogie, puisqu'il n'y en aura pas, il n'y en aura pas d'autres, nous avons décidé de relier cette trilogie dans un coffret qui pourra donc s'offrir à Noël pour partager ces moments un petit peu de magie, d'imaginaire, et ne pas oublier aussi que le conte est quelque chose d'essentiel, puisque l'enjeu n'est pas moins que de pouvoir survivre, puisque le conte a une dimension initiatique qui n'a pas été négligée d'ailleurs dans le travail d'écriture de tous ces contes. Voilà. Donc, pour survivre, je vous engage à rentrer dans cet univers de contes, les contes des Cosses du Quercy à la PIC. Et ce sont les éditions réciproques qui ont relevé le gant, éditions montalbanaises qui ont relevé le gant pour produire ces 3 ouvrages et les réunir dans un coffret pour Noël. Voilà. Alors, comme on dit... oui, excuse-moi.
Où se trouve-t-il en vente ?
Alors, ce livret se trouve en vente. Alors, vous pouvez le trouver à la bouquinerie Place Nationale, puisque nous sommes l'antenne locale de la PIC. Et en effet, c'est un ouvrage un petit peu particulier, puisqu'il n'est vendu que dans le cadre d'une souscription aux actions culturelles de la PIC. Voilà. Et comme on dit dans nos contes, écric et crac, mon conte est acabat.
On continue cette émission avec vous, Daniel Deloche. Quel est votre coup de cœur ce mois-ci ?
Eh bien, moi, comme Maurice aussi, j'ai choisi un coup de cœur intéressé, puisque je vais vous parler au milieu d'une immense actualité littéraire et de prix qui sont de qualité très inégale d'ailleurs. Je vais vous parler d'un ouvrage qui est le prix de la Caisse régionale de retraite de Midi-Pyrénées, dont nous sommes le libraire associé et qui a été remis ce vendredi seulement. Donc c'est de l'actualité toute fraîche. Cette année, il a été remis à Guillemette de Laborie pour Le Marchand de Bergerac, qui est un ouvrage qui est sorti aux presses de la Cité et qui raconte le tournant du XXe siècle dans le bergeracois, en prenant comme thématique la différence de réaction des protestants et des catholiques à l'évolution de la société. Avec bien sûr en même temps une très belle histoire d'amour, avec un personnage féminin rebelle qui ne respecte pas la tradition catholique en tombant amoureuse d'un protestant, qui ne se plie pas qui refuse d'abandonner le domaine viticole qu'elle aimait tant et qui a été ruiné par le phylloxéra. C'est un très beau livre. Pour mémoire, le Mémoire d'Oc de l'an dernier, nous en avons vendu 1300 exemplaires. Je ne suis pas sûre que nous vendions 100 Goncourt, par exemple, pour vous donner la proportion des retentissements que peuvent avoir ce choix d'une œuvre littéraire qui raconte l'histoire de la Grande Occitanie.
Choix étant fait par des jurys populaires, oui. Des cercles de lecture.
Des employés de la CRAM, et donc sans aucune pression médiatique et sans aucune pression éditoriale, comme ça se passe malheureusement dans tant de prix littéraires.
Donc, de vrais lecteurs.
Voilà.
Alors, le titre du livre ?
Le Marchand de Bergerac, de Guillemette de Laborie, qui est en plus une personne que je ne connaissais pas, bien sûr, et que j'ai rencontrée avec immensément de plaisir vendredi.
À quelle édition ?
Presse de la Cité.
Philippe Bernadou, votre coup de cœur.
Alors, je ne suis pas intéressé du tout à vous parler de L'ami Butler de Jérôme Lafargue, si ce n'est bien sûr l'intérêt intellectuel. C'est un roman qui m'a retenu parce qu'il fait appel superbement à l'intelligence, ce qui est aussi quelque chose de rare. Il prend pas le lecteur, il amène le lecteur, disons, à être intelligent, oui, à être malin. C'est un roman un peu à tiroir. L'histoire est celle d'un homme qui est appelé par son jumeau au secours. Et donc, il va aller le retrouver dans une ville un peu bizarre où le temps a l'air de s'être suspendu. Et où ce jumeau donc s'est réfugié parce qu'il est écrivain. Il est marié avec une jeune femme qui s'appelle Ilanda, qui est atteinte d'une maladie mortelle. Et il est allé dans cette ville-là en pensant que c'était là où elle serait le plus à même de vivre ses derniers jours. Or, il se trouve que ces deux jumeaux sont fâchés pour une sombre histoire, parce que celui qui vit donc dans cette ville bizarre est écrivain et a utilisé la vie de l'autre dans un roman. Donc ça les a fâchés. Il ne comprend pas pourquoi il l'appelle au secours. Et il va vite s'apercevoir en arrivant dans cette ville que le couple a disparu, son frère et sa femme. Il va fouiller ses papiers et il va s'apercevoir que son frère écrivain s'est mis à inventer des biographies d'auteurs qui n'existent pas. Et ce qui lui est arrivé, c'est que ces auteurs, petit à petit, se sont mis à exister. Il a reçu des livres signés par les auteurs dont il avait inventé totalement l'existence. Tout le livre est entre donc le récit de la recherche du frère, les biographies elles-mêmes qui sont bien sûr publiées dans le roman, et le journal du frère racontant comment petit à petit ces auteurs se mettent à exister. Vous voyez, cet emboîtage, c'est un régal, c'est borgésien, c'est un régal de lecture.
Et ça s'appelle ?
Et ça s'appelle L'ami Butler de Jérôme Lafargue, aux éditions Kidam Éditeur.
Je vous propose de marquer une courte pause musicale et on retrouve l'actualité de l'Alma dans quelques instants.
Hoćvać baratnem, hoćvać, očajam, bućanat, bućanat. Nem, nebe serek, magyarul, szeretlek, kedvesem. Stekerek, stekerek, dodorni kálmon. Stekerek, stekerek, dodorni kálmon. Iskito serkerek, iskito karsod kerek, es nekem, kérem szépen, nincs probléma, össör még nevetet, össör még nevetet. Egészségedre, kurva jó, egészségedre, kurva jó.
Nous sortons des gorges de la Carança, fourbus. Les bons randonneurs montent jusqu'au refuge et au-delà jusqu'à l'étang, proche de la frontière, pour finir leur course au pic du géant. Mais il faut 2 jours pour l'atteindre. Nous nous sommes contentés de suivre le torrent au fond des gorges, puis de monter à travers la forêt jusqu'à la corniche. Le sentier taillé au-dessus du vide dans la falaise est vertigineux, et l'on se sécurise généralement en tenant bon le câble ancré dans la paroi. Plus loin, on retrouve la Carança, que l'on continue de longer sur des passerelles et qu'on franchit par des ponts de singes. Écrire, ça doit être un peu comme marcher. On se vide, m'a-t-on dit un jour. Je pense au contraire, dans les 2 cas, qu'on ne s'allège pas, mais qu'on gagne en pesanteur.
Merci pour cette lecture, Philippe Bernadou. De quoi s'agit-il ?
Il s'agit d'un texte de Michel Baglin, qui est un journaliste de la Dépêche de Toulouse, qui est issu d'un livre qui s'appelle « Les pas comptés, carnet de Cerdagne », publié dans une petite maison d'édition qui s'appelle « Rhubarbe ».
Vous écoutez CFM, c'est l'émission mensuelle de l'ALMA, l'association des libraires montalbanais. Et tout de suite, une nouvelle rubrique, Hugues Dedi.
Absolument, une nouvelle rubrique, le bouquin foutraque. Alors, qu'est-ce que c'est ?
Le pire.
Non, il ne faut pas craindre le pire. Le bouquin foutraque n'est pas un mauvais livre. Le bouquin foutraque, c'est un livre étonnant par son sujet, par son écriture, ou étonnant par sa mise en page. En tout cas, c'est un livre qui sort de l'ordinaire, un livre extraordinaire. Donc, tous les mois, je vous présenterai un bouquin foutraque. Et ce mois-ci, j'ai retenu « Please Kill Me », l'histoire non censurée du punk racontée par ses acteurs. « Please Kill Me », c'est le fruit de centaines d'heures d'entretien avec ceux qui ont animé l'un des mouvements culturels et musicaux les plus détonnants de la fin du XXe siècle, le punk rock américain. Réalisé sous forme d'un montage nerveux, extrêmement vivant et souvent impitoyablement drôle ou tragique, ce livre nous offre une plongée incroyable dans la vie quotidienne, pleine de bruit, de fureur, de drogue, de catastrophe, de sexe, de poésie, allant du Velvet Underground à Iggy Pop, en passant par les New York Dolls, Patti Smith, Télévision, Ramones, Blondie et plein d'autres que nous avons connus à l'orée des années 80. L'enchaînement particulièrement irrévérencieux des points de vue provoque des effets comiques, souvent irrésistibles, puisqu'ici, comme l'indique le sous-titre, aucune censure n'a cours. Donc les amitiés indéfectibles côtoient les antipathies persistantes, les amours explosives, et tout cela donne en fin de compte un ensemble de témoignages croustillants qui montrent la profondeur du mouvement punk. Please Kill Me se lit comme un roman à plusieurs voix, rapide, à couper le souffle, comme une chanson des Ramones, un peu comme un attentat artistique.
À vos risques et périls.
C'était édité aux éditions Alia.
Et c'est sorti il y a combien de temps ?
C'est sorti en 2006. C'est quand même un gros pavé de 632 pages, absolument irrésistible pour ceux qui ont une passion pour le mouvement punk.
L'actualité des libraires montalbanais, Maurice Beau, ça commence par quoi ?
Eh bien, une actualité où deux librairies se rejoignent très souvent, c'est autour des 12e échanges philosophiques Philocité. Donc je vais parler pour la librairie Beau Livre et puis aussi pour la librairie Le Scribe. Donc ces 12e échanges, je rappelle le principe, c'est sur un thème donné. Cette fois, c'est pas moins que qu'est-ce que la sagesse ? Un professeur de philosophie, François Chalci, et un modérateur que nous connaissons sur Montauban, qui s'appelle Alain Escudier, proposent de se retrouver autour de ce thème conducteur. À chaque fois, on trouve des lieux différents et des lieux publics différents. Cette fois, la rencontre se fait donc ce mercredi à 18h30, mercredi 12 décembre, à la salle Didier Donat, au centre social Comète de Beausoleil-Bas, à Montauban. Et là encore, des échanges qui sont guidés, encadrés et très, très éclairants et très vivants. Et c'est mercredi 12 décembre.
Qu'est-ce que la sagesse ?
Qu'est-ce que la sagesse ? Pas moins.
Daniel Leloche.
Eh bien, moi, c'est le mercredi suivant, le mercredi 19 décembre, que je vous propose de venir à la librairie pour écouter la présentation et la lecture qu'Eli Baïs fera de Pierre de Ronsard, pas moins, dans notre librairie. C'est la lecture mensuelle de la Compagnie des écrivains de Tarn-et-Garonne qui, tous les mois, fait une rencontre, un coup au Scribe, un coup chez Deloche, un coup au Scribe, un coup chez Deloche, le troisième mercredi de chaque mois.
Et dans cette actualité extrêmement riche des libraires montalbanais, on enchaîne avec le 21 décembre. C'est un vendredi, le 21 décembre à 21h. Ça aura lieu au Son de l'Innocence et c'est organisé en partenariat avec la librairie Le Comptoir de Sildavi. De quoi s'agit-il ? Il s'agit des lectures inouïes. Si vous êtes intéressé par des textes fantastiques, de science-fiction, d'horreur, du gore, de la fantaisie, du gothique, de l'étrange ou d'autres textes qui engendrent la peur et le malaise, eh bien vous serez le bienvenu aux lectures inouïes pour lire des textes ou entendre des textes qui appartiennent à ces littératures fantastiques et imaginaires. C'est le vendredi 21 décembre à 21h, ça aura lieu au Son de l'Innocence à Montauban, au 52 Grande Rue Ville-Nouvelle.
Vous pouvez également aller, je pense, dans toutes les librairies de Montauban pour retirer les bulletins d'inscription et avoir tous les détails liés à cette rencontre que moi je baptiserais bien volontiers la nuit du Père Fouettard, parce que c'est juste quelques jours avant la nuit du Père Noël et Dieu sait que l'ambiance décrite a l'air un peu différente.
J'ai une inquiétude, est-ce gratuit ?
C'est gratuit, absolument, et puisque c'est Noël, nous y servirons des glaces au Père Noël.
Ah, quand même.
D'autres actualités ?
Alors, je voudrais signaler une exposition de peinture au Scribe. Hein. Le Scribe est aussi librairie, mais aussi fait cet effort d'être aussi un lieu de présentation, une galerie intéressante. Hein. Et là, vous avez une exposition de Francesc Baigueti Elias, donc un peintre catalan, hein, complètement imprégné de ses études de peinture et de l'art du livre de Barcelone. Hein. C'est un mélange de surréalisme, métaphysique et une ironie autour de peinture figurative. À découvrir donc au Scribe, hein, au premier étage du Scribe, dans sa galerie voilà, de peinture.
D'autres choses ?
Eh bien, je voudrais me faire l'écho et j'aimerais que les uns et les autres me rejoignent sur ça. C'est au niveau de l'ALMA, depuis maintenant trois ans, pour la troisième année en tout cas, nous avons pour habitude de produire une petite édition hein, autour de textes qui sont souvent les échos des soirées que nous avons animées. Il y a eu Parole de libraire, il y a eu
Parole de passeur de l'écrit.
Voilà, Parole de passeur de l'écrit. Et cette année, nous avons voulu changer un petit peu la forme et pour ça, nous avons fait appel à une photographe qui s'appelle Laurence Delcas, une photographe qui a engagé un travail, portrait de libraire, hein, voilà. Et ce travail, nous souhaiterions le produire dans le cadre d'une édition. Quoi qu'il en soit, ces images seront visibles très bientôt, de toute manière, d'une façon ou d'une autre. Et nous sommes là sur un projet d'édition, entre autres projets pour lequel il y a d'autres actions hein, que l'ALMA génère, pour lequel nous faisons appel à des aides souvent donc extérieures, en souhaitant que le Conseil régional, normalement, devrait reconduire l'aide qu'il nous a octroyée ces deux dernières années. Le Conseil général, étant actuellement en instance de réflexion hein, pour nous aider dans cette action, et ça nous permettrait de concrétiser donc cette action d'édition, hein, cette édition.
Qui sortirait quand alors ?
Et nous sommes très sincèrement en attente de subventions parce que c'est un coût qui nous reviendrait trop cher à partager entre libraires. Surtout cette année, puisqu'il y aurait des photos. Donc, nous sommes dans l'attente de bonnes nouvelles. Allô, Père Noël.
Pour cette action et pour d'autres.
Et pour d'autres aussi, bien sûr, puisque nous avons d'autres projets pour l'année prochaine. Le rendez-vous du Printemps des Poètes, bien évidemment, et d'autres projets encore.
Toutes ces informations, tout ce qu'on vient de dire, là, hein, sur le site...
librairie au pluriel montauban.fr.
Librairiemontauban.fr.
Où vous pourrez consulter à la fois l'actualité de toutes les librairies, mais aussi les conseils de lecture des libraires.
Merci Hugues Dedy du comptoir de Sildavi. Merci Philippe Bernadou et Daniel Deloche de la librairie Deloche. Merci Maurice Beau et à dans un mois.
Merci à vous.
À bientôt, au revoir.